Coulisses politiques avec Henri Vernet.
La gauche parviendra-t-elle à s'unir avant le premier tour de l'élection présidentielle? Le 5 mai, la Bellevilloise à Paris a accueilli un meeting avec le socialiste Olivier Faure, l'écologiste Marine Tondelier, le co-animateur de Génération Benjamin Lucas, ainsi que les députés François Ruffin et Clémentine Autain, tous deux anciens membres de LFI, et Lucie Casté, ancienne candidate du NFP au poste de première ministre. L'objectif est de trouver un candidat unique de la gauche pour 2027, mais le Parti communiste était absent du rassemblement à la Bellevilloise, tout comme Raphaël Glucksmann, Bernard Cazeneuve et François Hollande. L'autre grand absent du rassemblement de la Bellevilloise était bien sûr Jean-Luc Mélenchon, et pour cause, le leader de la France insoumise a officialisé sa 4e candidature à l'élection présidentielle. Bonjour à tous, je suis Loïc Barrière. Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio, sur Spotify, radioorient.com et nos réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous retrouvons le journaliste et écrivain Henri Vernet. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Alors pour commencer, on écoute Olivier Faure, premier secrétaire du PS et candidat à la primaire de la gauche.
Alors 2027, que se passera-t-il si la gauche rate encore ce rendez-vous? D'autres viendront. Et ils ne viendront pas pour gouverner, mais pour détruire. Je les entends. Je les vois aussi quand ils sont déjà au pouvoir, dans ces pays que l'on pourrait citer les uns après les autres. Ils arrivent avec leur tronçonneuse, joyeux, sur deux, pour déchiqueter le code du travail, démanteler la sécurité sociale, museler la presse, disqualifier les juges, piétiner l'égalité entre les femmes et les hommes, confondre la France avec ses frontières et l'identité avec la peur de l'autre. Cette France-là n'est pas la nôtre. La nôtre, c'est celle de Jaurès, c'est celle de Blum et du Front populaire, la République sociale, celle qui croit que la liberté se confond avec l'égalité.
Alors on vient d'entendre Olivier Faure, c'était lors de ce rendez-vous à la Bellevilloise avec les grands patrons de la plupart des partis politiques de gauche. Les deux derniers candidats du PS ont réalisé des scores historiquement bas en 2017 et 2022. Entre-temps, LFI est devenu le premier parti de gauche à l'Assemblée nationale, même si aux dernières élections européennes, Raphaël Glucksmann, le leader de Place publique allié aux socialistes, s'est imposé devant les insoumis, les écologistes et les communistes. Alors Henri, après deux quinquennats d'Emmanuel Macron, comment se porte la gauche française?
Après le tableau que vous avez dressé, et puis les phrases qu'on a entendues dans la bouche d'Olivier Faure, le patron du PS, on pourrait dire qu'elle se porte plutôt mal, la gauche. Alors, ce qui est quand même paradoxal, parce que néanmoins, un constat obligé, c'est qu'elle existe encore. Aujourd'hui, la gauche, alors dans toutes ses composantes, dans sa diversité, disons de la gauche radicale à la gauche de gouvernement, la gauche social-démocrate, elle pèse quand même, peut-être qu'on y reviendra, en gros un électeur sur trois. Donc, c'est une famille politique, dans le sens global, qui existe encore et qui a donc un poids électoral réel. En revanche, un poids politique peut-être beaucoup moins patent, beaucoup moins évident. Et on vient d'entendre Olivier Faure quand il dit manquer encore le rendez-vous, et puis vous l'avez rappelé, bah oui, cette gauche, ça fait deux fois. Alors, la dernière fois qu'elle était au pouvoir, c'était sous François Hollande, donc elle ne l'est plus depuis 2017, donc quasiment, enfin ça fera 10 ans au moment de la prochaine présidentielle. Surtout, elle n'était même pas au second tour. Alors, toutes composantes confondues, puisque le second tour, à deux reprises des deux dernières présidentielles, a vu s'opposer l'extrême droite de Marine Le Pen, c'était d'ailleurs la même affiche, et Emmanuel Macron, qui au début, dans son premier quinquennat, était, disons, ni droite ni gauche, ou en même temps de droite et de gauche, mais qui, au fil des années, est devenu plutôt de droite.
Et non seulement elle n'était pas présente au second tour, mais les scores des candidats étaient véritablement très bas, souvenons-nous,
absolument,
notamment du score d'Anne Hidalgo.
Moins de 2%. sens, qui était une humiliation. Comment imaginer qu'une candidate PS soit à ce niveau alors que à l'époque, 5 ans avant, son parti était à l'Élysée hein, avec Hollande. Donc c'est vrai que c'était une dégringolade absolument terrible. Alors donc c'est tout ça pour montrer, je reviens à votre question initiale. Donc la gauche de ce côté-là, bah oui, elle va mal. Pourquoi ? Parce qu'elle est divisée, elle est vraiment éclatée. On peut dire hein, en trois familles, en gros, ce que j'esquissais tout à l'heure, c'est-à-dire celle de gouvernement, disons la gauche qui reste encore social-démocrate, qui est illustrée, qui est portée par les noms qu'on connaît, hein, François Hollande, évidemment, l'ancien président, qui revient un peu là. Hein, on le sent même plus qu'un peu. On le sent vraiment revenir dans le jeu avec une volonté sans doute de tenter sa chance pour 2027 par des noms comme l'un de ses anciens premiers ministres, Bernard Cazeneuve, évidemment Raphaël Glucksmann, qui est aujourd'hui le plus capé dans les sondages, alors qui n'est pas PS, hein, qui est Place Publique, donc qui est apparenté, mais enfin qui lui aussi, disons, est dans cette famille, dans ce camp politique au sens large. À l'opposé, il y a cette gauche radicale, gauche tribunicienne, celle donc de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis, de LFI, qui est quand même vraiment une gauche de rupture. Autant la social-démocratie, elle est réformiste, autant Mélenchon, alors évidemment, après, il faudrait voir à l'usage, mais disons qu'il y a plus des accents révolutionnaires. Et puis, troisième composante qui est au milieu, avec donc un courant, un bloc écologiste qui existe encore, alors qui est à gauche, hein, qui existe encore bien évidemment, mais enfin, je veux dire, qui pèse encore, lui aussi, qui est très affaibli. Il n'est pas à ces niveaux un peu records, par exemple, des européennes de 2019. Mais le problème, donc, et pourquoi donc cette gauche va mal, bah, c'est parce qu'elle paraît incapable de s'entendre sur donc une plateforme, alors non pas un programme, parce qu'il est normal que chaque courant ait un peu son programme, mais en tout cas, disons, un minimum, disons, de priorités en commun, des idées, tout ça, aussi un système de départage.
Mais Henri Vernet, pourquoi la gauche est-elle aussi divisée aujourd'hui alors qu'en 2022, l'union avait été possible avec la NUPES, puis en 2024 avec le nouveau Front Populaire ?
Voilà, exactement. C'est le paradoxe que je soulignais. C'est comment, pourquoi en effet cet éclatement alors que ces deux alliances dont vous parlez ont marché ? Alors bon, il faut quand même bien reconnaître que c'était des alliances électorales, donc forcément un peu opportunistes, notamment pour la deuxième, hein, le nouveau Front Populaire, qui s'est constitué très rapidement. D'ailleurs, ça c'était une surprise, et plutôt une bonne surprise, parce que tout le monde avait été pris de court, évidemment en dehors de Macron lui-même, par la décision de dissoudre l'Assemblée au lendemain des élections européennes de juin 2024. Et justement, l'un des paris de Macron à l'époque était que jamais les autres forces politiques, donc à l'extrême droite, à gauche au sens large, n'auraient le temps vraiment de s'organiser. Or, le NFP est né assez rapidement, donc de l'alliance de LFI jusqu'au PS.
Mais il y a des questions de fond aujourd'hui, c'est-à-dire que certains leaders de gauche considèrent que Jean-Luc Mélenchon ne ferait pas un bon candidat de second tour, car il ferait élire Jordan Bardella.
Mais en effet, ces divergences, c'est vrai que la gauche, allez, pour faire simple, hein, elle est un peu traumatisée, elle est sous l'emprise de Jean-Luc Mélenchon, quoi. C'est une question de haine, amour. Alors amour, évidemment, dans son camp. Haine, peut-être que le mot est un peu fort, mais c'est vrai qu'il y a presque un ressentiment, parce que, bah, par exemple, il y a quelques jours, moi, je discutais dans une émission avec Clémentine Autain, qui explique donc elle-même ex-insoumise. Hein, aujourd'hui, elle a été réélue députée de Seine-Saint-Denis, mais elle siège avec les écologistes, qui a expliqué que, justement, on citait tout à l'heure la NUPES, puis le NFP, mais elle, son analyse, c'est que Mélenchon a tout fait pour empêcher d'exister à long terme ces alliances, donc électorales, mais enfin, qui auraient pu être programmatiques également. Pourquoi ? Parce que Jean-Luc Mélenchon, donc le leader insoumis, ne voulait absolument pas prendre le risque, à ses yeux, hein, de voir émerger d'autres personnalités capables d'englober la gauche, comme il rêve de le faire depuis un certain temps.
Il faut rappeler qu'il a progressé d'élection en élection depuis la première présidentielle.
Absolument. Depuis son première participation en 2012, qui était vraiment une grande première pour lui, parce que c'était un ancien, c'est quand même, ça a été très longtemps, un cadre important du Parti Socialiste. Il en a été sénateur, il est passé par député, bien sûr, il est passé un petit peu par toutes les fonctions électives qu'on pouvait. Et puis, et puis ministre, hein, dans le gouvernement de Jospin sur la cohabitation avec Chirac. Bref, 2012, c'était vraiment sa première rupture, et ce n'est que plus tard, d'ailleurs, qu'il constituera vraiment la force, le mouvement des Insoumis. Deuxième scrutin en 2017, où là, il se positionne en quatrième position, mais enfin, avec un écart relativement faible par rapport à François Fillon, qui était, lui, troisième. Et donc, ça avait d'ailleurs été un coup assez dur. Hein. Moi, je sais que pour avoir suivi vraiment ces élections de près, on avait bien vu que Jean-Luc Mélenchon, il avait accusé le coup de pas, comment dire, de ne pas voir sa progression suffisante pour accéder au second tour. Et puis, 2022, où là, il est à 21%, donc il est troisième, derrière, évidemment, le duel Marine Le Pen-Emmanuel Macron. Et là aussi, il est, de mémoire, je crois qu'on est à 400 000 voix. Enfin, c'est vraiment... il a vraiment joué son jeu. Et ce qui est notable, c'est que non seulement... vous avez raison de souligner ça, parce que non seulement il a quand même progressé à chaque élection, ce qui, évidemment, fait dire à ses supporters, à commencer par sa garde rapprochée hein, au sein de LFI, que bah oui, étant donné cette courbe, il n'y a aucune raison que sa quatrième tentative ne soit pas la bonne, parce que c'est rare hein, de faire... On cite souvent les précédents de Jacques Chirac et François Mitterrand qui ont été enfin élus. C'est vrai, mais chacun des deux ont été élus à leur troisième tentative. Là, Jean-Luc Mélenchon, comme d'ailleurs Marine Le Pen, si jamais elle était la candidate, on verra bien avec, comment dire, ses aventures judiciaires. Mais si jamais c'était elle, bah, disons que tous les deux en seraient à leur quatrième participation. Mais il faut aussi remarquer qu'il progresse également au fur et dans la campagne, il progresse beaucoup dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça qu'il essaie de tenir cet ensemble, l'ensemble de cette gauche sous son joug, hein, on peut le dire, en disant que bah, c'est quand même, et si on, la vérité des chiffres fait que pour l'instant, c'est lui qui représente le plus fort potentiel à gauche. Mais, vous l'avez dit, aujourd'hui, ce qui s'est passé entre 2022 et 2026, en tout cas, et donc potentiellement 2027, c'est qu'entre-temps, l'image de Jean-Luc Mélenchon s'est dégradée auprès de nombreux Français. C'est-à-dire qu'il est devenu, pour beaucoup, hein, une espèce de presque de repoussoir. Et d'ailleurs, un tout récent sondage montrait que pour 70% des Français, tout confondu, enfin toutes obédiences politiques confondues, 7 Français sur 10 considèrent qu'il est un handicap pour la gauche. Mais même quand vous focalisez sur, disons, la famille des sympathisants de gauche, même eux considèrent à 55%, donc une majorité, que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un atout pour la gauche.
Alors, on va écouter Jean-Luc Mélenchon. Il explique qu'en 2027, cela se passera entre lui et l'extrême droite. On l'écoute.
J'en ai marre de ces gens qui viennent et qui disent « Ah oui, il est très mauvais pour le deuxième tour. Commence d'abord toi, par être bon pour le premier tour et tu viendras causer après. » Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De me saboter le deuxième tour avant qu'il ait eu lieu? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes les renforts de l'extrême droite quand vous commencez à me taper maintenant pour le deuxième tour. Je vais vous dire ce qui va se passer au deuxième tour. Si ça se passe comme on nous a dit que ça allait se passer, c'est-à-dire que ce sera l'extrême droite contre nous, et c'est normal que ce soit l'extrême droite contre nous. Pourquoi? Parce que la société est malade et qu'il y a un choix à faire. Alors ceux qui sont là, le centre, comme ils disent, ils sont ni à gauche, ni à gauche, voilà. Alors, ils sont là, et ils aimeraient bien que ça s'arrange tout seul, et sans faire trop de sacrifices, hein, avec 3 poussières et 4 petites réformettes par-ci, par-là. Mais ce temps-là est passé, pauvre ami. On est dans un autre monde. Et donc, deux principes fondamentaux de la vie vont s'affronter. Chacun pour soi, ou tous ensemble. C'est ça l'enjeu, entre l'extrême droite et nous. Voilà ce qui se joue, rien d'autre.
On vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon. Il est en campagne électorale. Il a un programme, un réseau de militants dans toute la France, des élus déjà identifiés par les électeurs. Aujourd'hui, est-ce que ce scénario d'un affrontement entre Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella ou Marine Le Pen est un scénario crédible ?
C'est un scénario crédible, c'est pas pour autant un scénario fatal. Hein. Il faut vraiment laisser toute sa chance, j'allais dire, d'abord à ce qu'est une campagne électorale. Hein. C'est toujours très riche, ça réserve très souvent des surprises importantes. Et donc, et puis on est quand même encore à tout petit peu moins d'un an, donc le paysage peut évoluer. Il faut se rappeler, alors je sais très bien qu'on cite régulièrement ça, mais à raison, hein, c'est que vous prenez les différents scrutins présidentiels précédents depuis assez longtemps, un an auparavant, vous regardiez le paysage, vous regardiez les sondages. Il ne donnait jamais, ou en tout cas très rarement, le vainqueur final. Par exemple, un an, la même période, hein, donc disons début mai 2017, Emmanuel Macron n'existait quasiment pas. Il a commencé à émerger, à faire parler de lui en juillet. Donc bon, on voit donc que tout est possible. Maintenant, il est clair que Jean-Luc Mélenchon, il a intérêt à installer ce match-là, cette idée-là, que en gros, tout ce qui se structure, c'est lui d'un côté, seul barrage, donc LFI, contre en effet l'extrême droite. D'ailleurs, il faut voir à quel point le camp insoumis, depuis désormais des mois, et notamment encore aux récentes élections municipales, ne cesse d'agiter ce spectre d'un possible péril fasciste en France. Ce sont les mots qui ont été employés. On l'a vu, hein, y compris dans des scrutins municipaux où on était très loin de ça. Donc c'est vraiment cette idée qui s'installe. Évidemment, on l'a vu dans des circonstances dramatiques avec ce militant nationaliste, hein, d'extrême droite qui a été tué, qui a été à Lyon, le jeune Quentin, et l'implication probable. Hein, et, enfin, l'action judiciaire est en marche de la jeune garde, donc un mouvement créé par des élus, Raphaël Arnaud, des Insoumis, et surtout avec lequel Jean-Luc Mélenchon n'a jamais rompu et se refuse à le faire. Donc il y a cette idée-là vraiment de force radicale contre l'extrême droite, et ça, il veut l'installer. Mais en même temps, il est habile, Mélenchon. Et c'est vrai que c'est un, comme on le disait, hein, il aura 75 ans au moment de l'élection présidentielle, donc c'était l'été prochain. C'est quelqu'un qui a quand même un très long passé de vie politique, donc il sait comment les choses se passent. Et autant, ces deux, trois dernières années, il a vraiment radicalisé. On se souvient aussi de ses emportements, hein, mais la République, c'est moi, enfin, c'est cette façon qu'il a de railler, presque d'humilier les autres.
Et ses propos donc considérés comme très ambigus aussi sur l'antisémitisme.
Mais bien sûr, ça aussi. Et oui, c'est considéré comme ambigu, c'est même extrêmement répréhensible et ça choque beaucoup. Et en même temps, il faut bien dire les choses. Ça soude autour de lui une base qu'il recherche. Donc lui, ce socle de radicalité, disons qu'il l'a. Il y a beaucoup travaillé. Mais quand je disais qu'il était habile, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que là, on voit que d'abord, il est le premier, à gauche, à partir de manière aussi claire. Et il boit du petit lait quand il voit ce qui se passe dans le reste de la gauche. Parce que comme il l'a dit lui-même lors de sa déclaration de candidature, chez nous, c'est clair, c'est carré. Hein. Il y a une équipe, un programme et un seul candidat. Donc c'est vraiment la différence de tous les autres. Et donc, qu'est-ce que maintenant qu'il a ça, que va-t-il s'appliquer à faire ? Ben, c'est justement un peu à rassembler. On dit qu'aujourd'hui, il prend vraiment comme modèle celui qu'il appelle le vieux, c'est-à-dire François Mitterrand. Et François Mitterrand, ben, c'était ça qu'il faisait. Hein, dans un premier temps, pour le premier tour, vous rassemblez votre camp très fort. Mais après, en vue du second, ben, il faut commencer, disons, à élargir, à rassembler un peu plus large. Et c'est ça qu'il commence déjà à faire avec sa lettre aux Français, par exemple, qui est sur un ton qu'il a envoyé juste après son passage à TF1. Son interview, il n'est pas sur cette tonalité absolument radicale qu'on a vue. Alors bien sûr, d'ici là, il y aura une campagne. Et surtout, pendant cette interview, donc de déclaration, il a lui-même dit que ce n'était pas une fatalité de considérer que Bardella ou Le Pen seraient au second tour. Et de ça, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Ben justement, pour dire que, un peu pour couper l'herbe sous le pied de ses rivaux potentiels à gauche, en leur disant « mais arrêtez de me sortir le discours, il faut qu'on soit unis, sinon c'est l'extrême droite, c'est pas une fatalité l'extrême droite ». Et donc en disant ça, il justifie un peu le fait que lui, il soit parti avant et qu'il soit candidat, qu'il soit le candidat de
Et donc Jean-Luc Mélenchon peut jouer la carte du vote utile en sa faveur. Ça s'était déjà fait lors de l'élection de 2022. On avait vu des artistes, des intellectuels appelés à voter pour lui avant le premier tour en disant qu'il fallait donner le plus de force possible à un candidat de gauche.
Oui, c'est ça, c'est sa stratégie, c'est vraiment ce qu'il voudrait imposer. C'est pour ça que lui, il est complètement, hostile à toute constitution d'une force importante autour d'un ou d'une candidate à gauche, que l'éparpillement actuel lui sied parfaitement, parce que bah, si ça continue comme ça, on arrivera avec plusieurs candidats qui n'auront pas de marge suffisante pour pouvoir vraiment s'imposer. Et donc, en effet, on aura cette idée, les électeurs de gauche auront cette idée du vote utile, parce que sinon, bah, ce sera ou la droite ou l'extrême droite, mais en tout cas, de nouveau, les chances de la gauche annihilées. Donc, c'est quelque part, c'est cela qu'il joue. Et pour séduire ceux qui, encore une fois, qui sont réticents face à la personnalité de Mélenchon, et ben pour les séduire, c'est là qu'il va maudire un peu son discours. Alors, encore une fois, on dit ça, on est début mai, la campagne sera encore très longue et on verra bien si quelle ligne sera tenue. Il y aura bien sûr des moments forcément très, très brutaux. Parce qu'il faut quand même qu'il ait une réponse crédible par rapport à ce peuple de gauche, hein, cette grande famille. Là, je citais un sondage tout à l'heure par rapport à Mélenchon, mais en revanche, les électeurs de gauche ont aussi une aspiration, ils veulent une primaire. Je citais des récents sondages, plus de 8 électeurs de gauche sur 3 réclament une primaire de la gauche, mais donc de la gauche dans son ensemble.
Alors justement, Henri, on va écouter Clémentine Autain dans un instant.
L'Union, c'est une affaire extrêmement concrète. Et c'est pour ça que j'en veux à Jean-Luc Mélenchon d'imposer sa candidature, loin de l'Union, qui est la meilleure garantie d'accéder au second tour de l'élection présidentielle, alors que les deux dernières fois, nous n'avons pas réussi, et alors que l'extrême droite menace. Or, je note que le leader de la France insoumise minimise totalement le danger de l'extrême droite. Je le dis, c'est irresponsable. Vraiment irresponsable.
On vient d'entendre Clémentine Autain et là, elle dit que Jean-Luc Mélenchon est en train de faire du mal à l'Union de la gauche.
Ah bah oui, clairement, puisqu'il interdit de fait toute émulation de l'ensemble de la gauche qui passerait par une primaire ou autre chose. Et elle le dit, hein, la seule chance pour cette gauche, ce serait d'avoir cette candidature, donc un programme sur lequel, en tout cas une plateforme sur laquelle pourraient se retrouver les différentes composantes, hein, et puis donc passer par une primaire. Celle de 2012 reste dans les esprits parce qu'elle avait bien marché. Alors c'était celle dont était sorti François Hollande. Ça avait donné au fil d'abord des débats quand même assez riches. Alors évidemment, pas dans tous les sens, parce que les participants étaient tous d'accord quand même sur un minimum. Et ça, c'est logique, c'est propre à chacune. Quand vous faites une primaire, il faut que vous ayez, disons, un minimum d'entente sur quelques grands thèmes. Pourquoi ? Pour que à la fin de la primaire, tous les perdants, en quelque sorte, se rallient sans hésitation au gagnant ou à la gagnante. Rappelons-nous, ça n'avait absolument pas été le cas dans la primaire socialiste, de gauche en tout cas, de 2017, où à peine désigné, Benoît Hamon avait vu beaucoup des autres candidats de ses rivaux se détourner. Mais si une primaire marche, que ce soit à gauche ou à droite, c'est ça le but. Et là, c'est vrai qu'en partant aussitôt, en mettant, comment dire, en ayant cette prééminence, encore une fois, en radicalisant finalement les rapports de force entre lui et le reste de la gauche, c'est vrai qu'il décourage toute tentative d'union. Et donc, des personnalités comme Raphaël Glucksmann, comme François Hollande, mais voire aussi comme Bernard Cazeneuve ou pourquoi pas Jérôme Guedj, hein, au PS, se disent que dans ce cas-là, autant tenter d'incarner le plus tôt possible la gauche social-démocrate, donc non mélenchoniste, et ça peut pas, à leurs yeux, ça peut pas passer par une primaire qu'ils jugent inutile, puisque de toute façon, elle serait un peu réduite comme peau de chagrin au niveau des candidats. Vous les avez cités, les candidats, hein, on voit bien, enfin les candidats en tout cas, les candidats putatifs, ceux qui participaient notamment à ce rassemblement, on voit bien qu'en plus eux-mêmes, par exemple, si on prend Marine Tondelier, la chef de file des écologistes, elle-même, elle est très contestée dans son camp parce que tout le monde n'est pas persuadé qu'une primaire peut marcher et donc la manière dont elle s'est autodésignée comme candidate, ça leur convient pas très bien. Olivier Faure, n'en parlons pas. Là, il vient d'enregistrer la défection de Boris Vallaud
et de son courant
qui quitte la direction du PS. PS, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui, le premier secrétaire du PS n'a plus la majorité, puisqu'il a affaire à deux autres courants vraiment, vraiment importants. Et pourquoi ? Ben justement, sur ce thème du départage d'une, du ou de la future candidate.
Pour que l'on ait bien quelques chiffres en tête, que représentent les différents courants de la gauche avant le premier tour de l'élection présidentielle?
Alors tout dépend si on se réfère aux dernières élections où chacun est allé sous ses couleurs. Et donc là, en l'occurrence, c'était les européennes de 2024, hein, où vraiment à gauche, celui qui dominait, bah, c'était Raphaël Glucksmann, hein, qui avait réalisé près de 14%. Puis la candidate LFI, Manon Aubry, qui avait frôlé les 10%. Et quant aux écologistes, ils étaient autour de 5,5%. Donc bon, grosso modo, on pourrait dire que c'est le rapport actuel, sauf pour LFI, c'est-à-dire que dans les sondages, hein, qui se succèdent, là, ça y est, on est rentré vraiment dans la pré-campagne présidentielle, et donc les sondages ne manquent pas, on voit bien que Glucksmann est à peu près sur ce socle-là, mais il a intérêt à, comment dire, à creuser encore une possible avance, il va vraiment, être en mesure de s'imposer aux autres à la fin de l'été, au tout début de l'automne. On a le camp social, la tendance, disons, social-démocrate à la Hollande, à la Cazeneuve, qui est un peu derrière, enfin, en tout cas, François Hollande, qui est un peu derrière quand même, hein, pour l'instant, mais c'est vrai que c'est dur à mesurer. Quant aux écologistes, pour l'instant, ils sont vraiment bas dans les sondages. Il faut être clair, la primaire là, donc, dont il était question au rassemblement dont on a parlé à la Belle-Lilloise, il y a vraiment très 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 peu de chances qu'elle ait vraiment lieu, qu'elle se tienne tout simplement parce qu'on voit bien que personne n'en veut. Et Olivier Faure, donc lui-même, hein, au PS, qui militait plutôt pour, on sent maintenant qu'il est beaucoup plus hésitant. Il le dit lui-même d'ailleurs, il n'en fait absolument plus une priorité. Donc on voit mal comment cette primaire à gauche pourrait se tenir. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Ben, c'est le juge de paix, finalement, ça va être les sondages. Donc c'est pourquoi chacun aujourd'hui joue sa carte, tente d'imposer ses idées, marque un peu le terrain, et ça va durer comme ça. On peut penser jusqu'à la fin de l'été, peut-être le milieu d'automne, où là quand même il sera vraiment urgent de se mettre en marche. Mais déjà, ce désordre actuel, c'est clairement un problème pour la famille de la gauche, parce que c'est vrai qu'on voit bien qu'à droite, ben, malgré tout, ça s'organise à droite et au centre-droite d'ailleurs, avec ne serait-ce que le week-end dernier un Édouard Philippe, hein, qui a pris ses marques,
Gabriel Attal qui va faire un meeting à la fin du mois,
absolument, Retailleau à droite, lui en fera un également à la fin du mois, au tout début juillet, enfin voilà, tout cela s'organise. À l'extrême droite, n'en parlons pas. Alors de toute façon, début juillet, il y aura l'épilogue du feuilleton judiciaire, puisque le tribunal rendra son verdict définitif sur la non-éligibilité ou pas de Marine Le Pen. Mais en tout cas, de toute façon, on voit bien ce camp-là qui est bien présent et qui fait la course aujourd'hui très largement en tête dans les sondages. Et donc, on a évoqué au début Jean-Luc Mélenchon, qui lui, bah, comme ils le disent, c'est carré et il est candidat. Et lui aussi tient un meeting, hein, ça va être très prochainement, à Saint-Denis, la ville de Bali Bagayoko. Et justement, qu'est-ce qu'il va faire Jean-Luc Mélenchon ? C'est montrer cette force qu'il a autour de lui, c'est-à-dire que tout le monde sera là. Peut-être, d'ailleurs, on nous annonce un meeting qui devrait être assez puissant. Alors, est-ce qu'il va nous sortir des innovations technologiques, vous savez, vous rappelez les hologrammes de la campagne de 2022. Enfin, en tout cas, ce sera une démonstration de force. Et pendant ce temps, c'est vrai que la gauche non mélancholiste, eh ben, elle patine, elle patauge.
Merci, c'était Coulisses politiques avec le journaliste et écrivain Henri Vernet, un podcast disponible sur Spotify et sur radioorient.com.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet.